en février, on invitait la Maison botanique de Bourset dans La Chose commune. Et comme le travail d'une association d'éducation à l'environnement n'est jamais fini, voilà qu'ils reviennent à nouveau à l'antenne pour nous parler d'un projet évoqué rapidement la dernière fois, le collectif des planteuses et planteurs de haies bénévoles. En effet, le paysage de bocage du Perche est indissociable de la présence des haies, qui ont un rôle important pour la biodiversité et l'agriculture. Pourtant, même là-bas, où elles trouvent toujours leur place, les haies semblent menacées, à protéger, voire même, et surtout à réimplanter. Et donc pour en parler, je reçois trois invités de la Maison botanique et du collectif. Étienne Monclus, qui s'occupe de la coordination entre la Maison botanique et le collectif des planteurs, bonjour.
Bonjour.
Grégory Tchalikian, président de la Maison botanique, également bénévole au sein du collectif, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour. Lola Parmentier, salariée de la Maison botanique, chargée de communication et également membre du collectif, bonjour Lola.
Bonjour.
Déjà, comment ça va depuis la dernière fois? C'était en février, je crois, qu'on vous avait reçu dans l'émission. Comment ça va?
Tout va bien pour nous. Ça va bien, la Maison botanique. Plein d'activités, comme d'habitude, on ne s'ennuie pas.
Très bien. Oui. Alors, avant qu'on commence à parler un petit peu de cette action de plantation de haies, et notamment du projet de financement participatif que vous êtes en train de mener, est-ce que déjà on peut présenter en quelques mots le collectif des planteuses et planteurs de haies volontaires, bénévoles, pardon?
Oui, moi je peux vous présenter en quelques mots, ça va être dur parce que c'est pas une très longue histoire, mais il y aurait beaucoup à dire. C'est un collectif qui a été créé en 2018, donc il y a 3 ans, parce qu'on avait le souci à la Maison botanique d'accompagner des porteurs de projets qui souhaitaient planter des haies, des paysans, des particuliers, des collectivités, et qu'on se rendait compte qu'assez peu de projets se lançaient, notamment parce qu'il y avait une problématique de main-d'œuvre, c'est-à-dire que planter 50 mètres de haies, c'est facile, mais en planter 1 km, ça devient compliqué en termes de temps. Et comme c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de participer à cette construction du paysage, on s'est dit qu'un collectif de bénévoles permettrait de lever ce frein à la plantation. Voilà, donc c'est parti de là. Et c'est, si je reviens encore plus en arrière, c'est parti d'une conférence à laquelle j'avais assisté sur un colloque européen sur les trognes où des Hollandais nous disaient que c'était monnaie courante là-bas que des associations de citoyens participent à la construction du paysage et viennent aider agriculteurs ou collectivités. Voilà, pour l'historique.
Très bien. On va peut-être avancer et rentrer dans le vif du sujet. Déjà, est-ce qu'on pourrait expliquer aux auditeurs de la radio ce qu'est une haie, voire une haie champêtre? Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent?
Une haie champêtre, c'est une haie. Alors, déjà, on peut définir ce que c'est qu'une haie. C'est une formation, c'est une construction humaine. C'est pas quelque chose de naturel. Donc, c'est quelque chose qui a été implanté par l'homme pour des usages bien spécifiques. De clôture, d'ombrage, de fourrage, de brise-vent, il y a tout un tas d'usages envisageables. Et la haie champêtre, elle est considérée champêtre parce qu'elle est constituée d'essences, donc d'arbres, qui sont des arbres qui poussent de manière naturelle sur nos territoires. Donc les haies champêtres du centre de la France ne seront pas les mêmes haies champêtres du sud de la France, parce que les arbres et les plantes qui poussent ne sont pas les mêmes. Mais c'est on va dire que ce ne sont pas des plantes ornementales, c'est les plantes qui poussent naturellement sur nos territoires.
D'accord.
Et donc une haie, c'est un alignement d'arbres, c'est une ligne d'arbres, d'arbustes, de buissonnants, d'herbacées, c'est un système forestier linéaire finalement.
Oui, c'est-à-dire que ça fonctionne comme une forêt, mais c'est en ligne droite ou parfois avec des angles ou même des haies. Mais on est sur une structure qui est assez fine au niveau de son épaisseur quelque part.
Alors, ça peut être fin comme ça peut être très épais, ça peut faire 4-5 mètres d'épaisseur. C'est vraiment l'usage et les fonctions attendues de la haie qui déterminent sa configuration, voire sa hauteur. Et c'est là où j'insiste sur le fait que c'est une construction humaine. C'est souvent l'agriculture qui a façonné les haies et qui, en fonction des usages agricoles, décide si ça va être une haie basse ou une haie laissée libre, très haute, ou une haie avec une alternance d'arbres taillés bas et d'arbres laissés monter haut. Voilà, c'est vraiment un système artificiel, entre guillemets, dans lequel on retrouve beaucoup de richesses, beaucoup de biodiversité, mais qui est vraiment un système qui accompagne le plus souvent les paysans et les agriculteurs.
D'accord. Vous avez abordé rapidement la question justement de à quoi ça sert des usages des haies. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'y revenir? Il y a, en gros, à quoi ça sert une haie dans un champ, dans le Perche ou ailleurs d'ailleurs?
Eh ben, c'est ça qui est génial, c'est que ça a une multitude d'usages, aussi bien pour les agriculteurs, les collectivités, que pour les particuliers. Alors, si on se concentre sur le champ agricole, selon si on est éleveur, la haie va pouvoir servir d'ombrage pour les animaux, donc pour le confort animal. Elle va pouvoir servir de brise-vent pour protéger les bâtiments. Elle va pouvoir être productrice de bois pour le bois énergie ou pour faire du bois d'œuvre pour des constructions de charpente. Production de fruits, elle va permettre aussi, là pour les grandes cultures, d'être un refuge pour les auxiliaires de culture et donc de permettre de limiter les intrants sur les fermes, les intrants chimiques. C'est des corridors écologiques, et puis après, alors ça c'est les usages, on va dire, fonctionnels, agronomiques, et après il y a les usages, on va dire, bien communs du territoire, c'est-à-dire que ça crée du paysage, ça crée une attractivité du territoire. Ça va aussi créer des microclimats qui vont rendre la vie plus facile en temps de canicule ou temps très froid. Et c'est donc aussi des usages qu'on va pouvoir trouver au sein de collectivités, au sein de villages, voire chez des particuliers.
Et je peux rebondir là du coup sur ce que vient de dire Étienne, par rapport au projet de plantation, tout ça. Quand on fait nous les recherches en général sur Géoportail, où on a des images des anciennes images en fait de disposition de haies sur le territoire sur lequel on est actuellement, c'est assez fou la richesse qu'il y avait en fait en termes de linéaire et en fait c'était un paysage très 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 bocager en fait au départ. Ben là où on est dans le Loir-et-Cher. Et voilà, pour rebondir sur l'aspect paysage de la haie et l'aspect de l'importance de la présence des arbres autour de nous. Voilà, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Étienne.
Du coup, par rapport à ça, Grégory, c'était la question que moi j'allais poser après. C'est vrai que ce paysage bocager du Perche, c'est un petit peu ce qui fait, avec le vallonnement, c'est ce qui fait un petit peu son image au local. On a quand même l'impression que malgré tout, il y a encore des haies dans le Perche. Pourtant, on a le sentiment que vous affirmez, enfin, moi j'ai le sentiment que vous êtes en train de dire qu'elles sont en voie de disparition. Est-ce que
Bah,
est-ce que c'est vraiment le cas?
les faits sont qu'aujourd'hui, on arrache plus de haies qu'on en plante. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, bah, on essaye de continuer de planter des haies, mais on continue quand même en France aujourd'hui d'arracher des arbres et des haies. Donc, c'est d'aujourd'hui. Et on a arraché depuis les années 50, 60, même dans les années 70, on a beaucoup, beaucoup arraché. L'équivalence, je crois, de ces 3 millions, je crois que j'avais vu une fois, ou de kilomètres de haies. Donc, en termes de surface plantée, on a beaucoup, beaucoup perdu.
Donc, bien
Voilà.
sûr, il en reste encore, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait. En fait, le bocage a été énormément détérioré par ces arrachages.
D'accord.
Est-ce que... Pardon.
Je
Vas-y.
voulais savoir un petit peu, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on a quelque part arraché autant de haies?
Bah, le remembrement, les politiques de remembrement, c'est-à-dire les parcelles agricoles qui ont été fusionnées, parce qu'en fait, il y avait ça aussi, c'est que les haies délimitaient aussi des parcelles agricoles, et le fait que les parcelles agricoles soient devenues plus grandes, eh ben, les propriétaires ont récupéré de la surface arable en arrachant des haies, en fait. Donc c'est ça aussi qui a causé beaucoup de dommages à ce niveau-là. Et puis la mécanisation avec les gros engins, voilà, c'était aussi pour faciliter la mécanisation de l'agriculture. Les passages de gros engins étaient, voilà, du coup plus simples dans la mesure où il y avait moins de bosquets, moins d'arbres à contourner.
Puis, il y a une chose qui est importante à préciser aussi, c'est que l'entretien des haies, les haies, c'est effectivement des choses artificielles qui sont plantées par l'homme, mais qui nécessitent aussi un entretien et une gestion. Pour caser des usages qui soient fonctionnels, ça demande derrière une gestion. À l'époque où le bocage était très dense, ça demandait énormément de travail dans les fermes, et les fermes grandissant, se mécanisant et la main-d'œuvre finalement se faisant moins importante. La gestion du bocage, qui était quand même quelque chose d'assez lourd, Faut aussi imaginer que les paysans, ils ont, comme tout le monde, eu envie de s'alléger un peu leur travail et ils ont finalement aménagé, comme ils ont toujours fait, le paysage à leur usage. Et leurs usages se modernisant, ils ont aussi en quelque sorte modernisé le paysage sans forcément avoir conscience de l'impact que ça pouvait avoir. Mais il faut comprendre qu'ils se sont aussi allégé la vie en agrandissant leurs parcelles, parce que c'était quand même pas des métiers faciles. Et voilà, il faut surtout pas jeter la pierre aux paysans. Eux, ils s'adaptent à l'évolution de leurs pratiques et ils construisent le paysage comme nous on construirait notre jardin en fonction de nos pratiques. Donc voilà, il y a pas de culpabilité à jeter sur personne. C'est juste un fait de société, un fait d'époque dont maintenant on ressent les conséquences, mais qui à l'époque était compliqué de pressentir.
Et en parlant de conséquences, quelles sont-elles?
Bah, les conséquences, c'est celles qu'on retrouve un peu partout dans le monde. C'est une chute de la biodiversité, parce que les haies sont des sites d'accueil pour une faune et une flore, des couloirs, des corridors écologiques.
Oui, non seulement d'accueil, mais aussi de déplacement.
Oui, c'est ça.
La fertilité des sols aussi beaucoup. Je passage beaucoup.
Oui.
L'érosion. Voilà, parce que du coup le fait qu'il y ait moins d'obstacles quand il pleut l'hiver, du coup ça ravine les sols sont... En fait le sol c'est quelque chose de très complexe, il y a plusieurs couches, enfin on va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est en surface du coup c'est ça ravine en fait l'hiver avec toutes les pluies et le fait qu'il n'y ait pas d'obstacles qui interrompent en fait l'écoulement, voilà, crée du coup un appauvrissement des sols. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur... Et puis, on parlait du paysage tout à l'heure, je crois que c'est important d'insister sur ce point-là. C'est la transformation de ce qui nous entoure qui est devenu du coup plus plat, moins riche, effectivement, en termes de biodiversité. Et voilà.
En termes d'attractivité aussi du territoire par rapport aux personnes qui viendraient s'installer sur tel ou tel territoire, ils regardent avant tout le paysage, les services offerts par l'environnement, etc. Et du coup, moins de haies, ça offre un paysage beaucoup moins attrayant et donc un endroit où les futures personnes qui s'installent auront moins envie de s'installer. Donc un paysage beaucoup moins attractif pour l'homme.
D'accord. Donc face à un petit peu ce constat, vous avez choisi, décidé de tenter de remédier à ça par la plantation de nouvelles haies. Est-ce que, déjà, vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour planter des haies de façon pérenne, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de mettre quelques arbres là, par-ci, par-là, et d'attendre de voir ce qui se passe. Je pense qu'il me semble qu'il y a un vrai travail à effectuer pour que ce travail, pour que cette action... porte ses fruits sur le long terme.
Oui, il y a effectivement plusieurs points sur lesquels on fait très très attention. Déjà, le premier point, c'est de rencontrer les personnes chez qui on va planter pour comprendre les raisons pour lesquelles ils plantent une haie. Parce que une haie qui vivra longtemps sera une haie qui sera entretenue, et une haie qui sera entretenue, c'est une haie qui aura du sens pour la personne qui l'entretient. On n'entretient pas quelque chose qu'on ne comprend pas et qui n'a pas d'intérêt. Donc, notre première action, c'est de rencontrer les personnes chez qui on plante, de savoir pourquoi ils veulent planter, quel rôle et quelle fonction ils attendent de cette haie. Une fois qu'on a compris ça, on regarde sur quel sol, à quel endroit va être plantée cette haie, donc quel type de sol on va avoir, est-ce que ça va être des argiles, du calcaire, plutôt basique, plutôt acide, etc. Le cortège des arbres qui viendront s'installer seront différents selon le type de sol qu'on aura. On regarde si les sols sont humides, frais, séchants. Voilà, on fait une analyse un peu pédologique et hydrologique des sols. Et puis après, effectivement, on choisit les essences qui vont s'adapter à ce contexte-là. Ça, c'est la partie, on va dire, conception de la haie. Après, une fois qu'on a fait ça, on est loin d'avoir tout fait, parce que pour que la haie survive à ses premières années, qui vont être les plus délicates, il va falloir la favoriser par rapport à ce qui pousse à côté. C'est-à-dire qu'il va falloir préparer les sols pour permettre aux arbres et aux racines de s'enraciner profondément le plus rapidement possible. Donc pour ça, il faut éliminer la strate herbacée. Alors si c'est une prairie, on élimine l'herbe. Il faut passer soit la charrue, soit un décompacteur, et puis affiner la terre comme si c'était une terre de potager. Et après, les arbres, il faut les planter. Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est même plutôt le plus simple.
Ce sont des petits arbres.
On plante des tout petits arbres, parce que plus ils sont petits, quand on les plante, plus ils ont une capacité à s'implanter facilement et à s'adapter à leur sol plus facilement que de grands arbres qui peineront beaucoup plus.
On praline les racines.
Les racines. Accessoirement, on prend aussi des petits arbres parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher. Donc, c'est aussi un intérêt à la fois pour l'arbre et pour la personne qui plante. Et après, il faut pailler abondamment. Un paillage organique, si possible, la paille, du broyat de branches pour à la fois empêcher l'herbe de repousser et donc de concurrencer l'arbre vis-à-vis de la ressource en eau et de permettre de protéger le sol l'été de la sécheresse et d'essayer de garder une teneur en eau la plus élevée possible, même en période de sécheresse. Et dernière chose, très importante et presque la plus compliquée à gérer, parce que ça coûte cher, c'est de protéger les arbres des chevreuils, des lapins, des brouteurs en fait, qui seraient autour et qui peuvent réduire à néant tous les efforts qu'on vient de citer avant, si ce n'est pas anticipé. Et ça, c'est important et à la fois compliqué à gérer, parce que c'est long à mettre et en même temps, ça coûte cher. On peut estimer qu'un arbre, un jeune arbre, ça coûte entre 70 centimes et 1,50 € à l'achat. Les protections, faut compter, des bonnes protections contre les chevreuils, il faut compter 3 € par arbre. Donc là, on pense souvent que c'est les arbres qui sont les plus chers, mais en fait, c'est les protections qui sont les plus chères. Et si on fait l'impasse sur les protections, ça dépend des zones, mais des zones où il y a des chevreuils, il y a 80% de chances que la haie ne pousse pas. Simplement, voilà. Donc, tous ces points-là, ils sont absolument pas négligés de A à Z. Et une bonne plantation, c'est une plantation qui aura pris garde à respecter et à faire attention à tous ces points-là.
D'accord. Au niveau des essences qu'on installe, je suppose que vous l'avez expliqué, hein, il y a tout un diagnostic sur le terrain sur lequel on va installer, mais en gros, les espèces que vous plantez, vous, sur les projets que vous menez dans le Perche, c'est quoi ?
Ben, c'est beaucoup d'essences champêtres, on en parlait là tout à l'heure, des choses plutôt locales. D'ailleurs, on travaille avec le label...
Végétal local,
merci. Voilà, une partie, pas tous nos arbres ne viennent pas de... Enfin, non pas ce label, mais une grande partie. Donc, ce sont des espèces qu'on retrouve communément autour de chez nous, qui sont du coup adaptées, pour le moment, si le changement climatique ne vient pas semer le trouble, qui sont adaptées au terrain et...
Au climat.
Au climat, absolument.
Et puis à l'usage qu'on veut en faire.
Oui. Et en fonction de donc ce que disait Étienne, c'est ça, c'est si le porteur de projet décide d'avoir une haie qui a une destination fourragère par exemple, on va s'orienter sur des essences appétantes, on va dire pour les animaux avec un feuillage qui pourrait servir de fourrage. Voilà. Noisetier, sureau, enfin voilà, genre de d'arbres ou d'arbustes, voilà, frêne.
Vous voulez une liste un peu plus complète, un échantillon?
On a beaucoup d'essences possibles. Ça, et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que quand on monte le projet, donc avec les porteurs de projet, on peut leur proposer, mais je crois qu'on n'est pas loin de 100 peut-être essences. Voilà. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'essences.
D'accord. Oui, non, on va pas faire la liste complète, mais en tout cas, ça nous donne un ordre d'idée déjà de comprendre que c'est des arbres qu'on peut trouver déjà sur le territoire, qu'on connaît tous, ou plus ou moins en tout cas. Et en effet, si on parle aussi de noisetier, c'est aussi des arbres qui peuvent être aussi utiles à l'homme, sur lesquels on va pouvoir en retirer quelque chose, quoi.
Absolument.
Et des châtaigniers aussi.
Oui, châtaigniers. Et aussi un point intéressant qu'on essaye d'expérimenter aussi, c'est d'introduire des essences un peu plus méridionales, vraiment en petite proportion, on essaye d'anticiper, si vous voulez, ce qu'on appelle le changement climatique, et avec des essences qui seraient du coup un peu résistantes aux étés très chauds. Et voilà, du coup, on essaie comme ça, du chêne vert, qu'est-ce qu'on met de...
Du mûrier.
Voilà, le mûrier, par exemple, aussi. Donc, ce ne sont pas forcément des végétaux qu'on va retrouver localement en grande quantité. On peut trouver quelques spécimens, de part et d'autre, comme ça dans la région, mais planter dans les haies, peut-être pas. Mais voilà, on essaye comme ça aussi, de, dans un souci toujours aussi, d'avoir une haie la plus, avec une longévité la plus grande possible. Voilà, c'est l'idée aussi.
D'accord. Sur un projet, avec un porteur de projet, sur l'implantation d'une nouvelle haie, entre l'idée de départ, l'envie de départ et le moment où la haie est plantée, il se passe combien de temps à peu près ?
Il se passe à peu près une année. Généralement, les personnes nous contactent alors, au printemps, ça dépend. Alors, en ce moment, surtout qu'on est, on est pas mal complet, donc on a vraiment une année d'attente. Si on imaginait que notre saison prochaine n'était pas déjà complète, ce qui est le cas, les personnes pourraient nous contacter au printemps. On irait les voir chez eux au printemps pour leur faire une proposition dans l'été, faire des différents échanges. Et surtout pour avoir le temps de préparer les sols, parce que la préparation des sols, ça se fait août, septembre, octobre, avant qu'ils se mettent à trop pleuvoir, pour pas trop abîmer les sols. Et du coup, il faut que ça s'anticipe. Donc pour une plantation de décembre à mars, on peut dire qu'on commence les projets le mars de l'année précédente. J'espère avoir été clair, parce que du coup, là, ça se chevauche sur plusieurs années.
C'est très clair.
En tout cas, c'est un long processus. Voilà. Entre le moment où la personne nous contacte et le moment où il y a la plantation, il se passe un an.
Il faut compter une année, oui. Ouais.
D'accord. Alors j'imagine que des arbres qui viennent tout juste d'être plantés, ils ont cette fragilité, il faut les surveiller. À partir de quand une haie qui commence à pouvoir apporter tous les avantages, tous les bénéfices, tous les services dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission ?
Eh ben moi je dirais si elle n'a pas été broutée, qu'elle a correctement été paillée, qu'on a respecté tout ce qu'on a dit précédemment, au bout d'une dizaine d'années, elle va commencer à être belle et à devenir ce qu'on peut imaginer d'elle. Bien qu'elle sera encore jeune au bout de 10 ans, parce que forcément les arbres de Auger seront encore feront pas plus de 4-5 mètres, mais déjà on aura dans le paysage un élément significatif et qui aura des fonctionnalités qui sont mises en place.
D'accord.
C'est un peu long, hein. C'est vrai qu'avec les arbres, c'est toujours un peu frustrant, mais c'est ce qui rend ce travail intéressant aussi, c'est qu'on change de pas de temps, quoi. On n'est plus sur des choses annuelles très rapides. Il faut accepter que ça mette du temps.
C'est long à l'échelle humaine.
Oui.
Ce qui explique aussi, c'est qu'on ait mis du temps à se rendre compte, quelque part, qu'en faisant disparaître les haies, on se privait de quelque chose d'intéressant, quoi.
Complètement.
Oui, certainement, oui. Ça joue forcément.
Alors, sur les haies, vous, sur les projets que vous avez déjà réalisés, on peut peut-être reciter un ordre de grandeur, un chiffre. Depuis 3 ans, vous avez planté combien de kilomètres de haies ?
On est à peu près autour des 7 kilomètres, ce qui est pas mal pour notre association, mais pour le territoire qui reste encore une goutte d'eau, ça représente à peu près 10 000 arbres. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que normalement, l'hiver prochain, on devrait planter 7000 arbres. Donc, ce qu'on a fait en 4 ans, on va quasiment l'égaler en une année.
D'accord. Voilà,
c'est juste pour signifier qu'il se passe des choses quand même sur cette thématique-là, que le territoire, aussi bien les élus que les agriculteurs ou les habitants, il y a une petite bascule qui est en train de se faire et les gens comprennent l'importance de ces projets-là. Et du coup, les projets se développent quand même avec beaucoup d'importance. Ce qui est plutôt encourageant et pour notre territoire. Après, je ne pourrais pas parler pour les autres territoires, mais par chez nous, c'est comme ça.
D'accord. Et du coup, sur les 7 km et sur les 10 000 arbres que vous avez plantés, est-ce que vous savez déjà quel est le pourcentage d'arbres qui sont toujours vivants ? Parce que je suppose qu'il y a toujours un pourcentage de perte quelque part. Comment vont les haies que vous avez déjà plantées depuis 3 ans ?
Alors il y a de tout, parce que forcément on a acquis des compétences au fil des années. Alors il y a des haies qui se portent très bien. Donc déjà, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'une fois qu'on a planté les haies, on revient l'année d'après au printemps, on revient l'année d'après à la fin de l'été pour voir ce qui s'est passé pendant l'été, parce que c'est comme une période assez charnière, et que on resuit même les années d'après. On essaie de faire des visites de chantier pour aller voir comment vont l'évolution des haies qu'on a plantées. Et on a tout globalement, les 80-90% ont poussé. On a quelques chantiers où ça n'a pas poussé, donc on sait qu'on va y retourner parce qu'on veut pas laisser tomber les personnes chez qui on a planté. C'est parfois des erreurs et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'expliquais comment on plante une haie, j'étais assez, comment dire, exigeant sur la manière de le faire parce que on a pu faire parfois, on a pu planter des haies en respectant peut-être pas toutes les règles et on s'est rendu compte que non, il fallait absolument faire attention à tout de A à Z, de la préparation des sols à la protection. Il n'y a pas de. Une haie plantée avec un petit, comment dire, avec une petite légèreté sur un des points, ça peut être vraiment rédhibitoire pour la haie. Donc voilà, nous aussi on apprend de nos erreurs et je pense que maintenant on n'en fait plus ou presque plus. Donc les haies qu'on plante, elles poussent. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui.
Et puis ce qui est intéressant aussi, ça revient sur la discussion du début sur les agriculteurs. On a beaucoup d'agriculteurs, du coup, enfin pratiquement la totalité des prochains chantiers, enfin la grande majorité en tout cas, sont des porteurs de projets sont du monde agricole. Donc en fait, on a quand même le cercle qui se referme en fait. C'est les agriculteurs qui reviennent à des pratiques plus vertueuses, voilà. Et là, pour le coup, en termes de succès d'une plantation, ça marche très bien parce que, en général, les agriculteurs sont très bien équipés. Donc, pour les préparations du sol, ça se passe toujours très bien. Et les protections aussi, du coup, ils ont plus, entre guillemets, plus de moyens pour que les plantations soient pérennes et que tout se passe bien, quoi. Donc, ça aussi, c'est un point positif sur les chantiers qui viennent là.
D'accord. On arrive bientôt au terme de l'émission. Je voudrais qu'on prenne le temps quand même sur les minutes qui viennent de parler justement des projets du collectif. Là, vous avez lancé une campagne de financement participatif. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu? Quels sont les objectifs et quels sont les différents paliers que vous cherchez à atteindre?
Alors, nous, on veut planter des haies pour partager et apprendre avec la Maison Botanique. En fait, on a lancé ce financement participatif cette année pour pouvoir planter chez des particuliers et des collectivités qui, eux, ne bénéficient pas d'aide de la région ou de l'État. Et l'idée, c'est de planter donc 5000 arbres chez eux. Et à travers ces plantations, d'organiser ce qu'on sait faire, hein, des chantiers bénévoles, avec plein de bénévoles super sympas qui vont planter chez les particuliers et dans les collectivités pour rencontrer ses voisins, pour faire du lien social, pour aller apprendre quelles essences on plante, comment on plante un arbre, pour pouvoir poser toutes les questions qu'on a à se poser et pour qu'il y ait vraiment ce moment d'échange autour de l'effort, etc., autour de la plantation. Et ce financement participatif, il va permettre de payer à la fois les 5000 arbres, mais aussi la protection des arbres et le paillage. Donc tout le processus qu'on a, et ce que Étienne a expliqué tout à l'heure, qui permet à l'arbre de pousser. Le but, c'est vraiment de planter des arbres qui vont pousser. Des arbres qui poussent, nous, on ne veut pas faire autre chose que ça. Et restera à charge 1 euro pour les porteurs de projets. Donc ça lève le frein financier dont on parlait également au début.
Un
euro par arbre. J'ai pas dit. Oui, pardon. Un euro par arbre par porteur de. Oui, par arbre. Pardon. Et du coup, ça lèvera ce frein financier qui est quand même très, très, très présent. On a énormément de personnes qui ont plein de projets de plantation, qui ont envie de changer le paysage, mais qui elles sont vite freinées, puisque un arbre planté correctement, nous, on a estimé ça à peu près 7 euros de l'arbre. Donc, on imagine un linéaire avec 100 arbres, ça fait à peine 50 mètres. C'est pas grand chose, mais ça coûte
700 euros.
Voilà.
D'accord. La campagne a démarré quand
Ça fait un mois. C'est le 24 avril, mars.
C'est quand elle finit qui nous intéresse.
Bon, jusqu'au 21 juin.
En tout cas, c'est jusqu'au 21 juin.
Jusqu'au 21 juin. Ouais. D'accord. C'est bientôt. Et nous, on va tout faire pour atteindre notre objectif. On y est presque, mais on a encore besoin de soutien et on espère que des personnes intéressées vont rejoindre les contributeurs à ce projet pour pouvoir le faire, mener à bien nos actions.
Justement, en parlant d'objectifs financiers, il vous manque combien là pour aller au bout de ce dont vous avez besoin ?
Aujourd'hui, l'objectif étant de 20 000 euros, il nous manque 8 000 euros.
D'accord. Et donc du coup,
un petit peu plus chaque jour.
Oui, ça avance de toute façon. On espère que cette émission vous sera profitable. Comment justement on peut retrouver cette campagne? Où est-ce qu'on peut aller voir pour éventuellement participer ou s'informer sur ce que vous faites?
Alors on peut du coup aller sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, donc la Maison Botanique, ou sur l'Instagram, Maison Botanique Boursais. Et dessus, il y a évidemment les liens. Sinon, c'est sur Bluebees. C'est la plateforme de financement participatif et donc c'est le projet de la Maison Botanique. Planter des haies, partager et apprendre avec la Maison Botanique.
Très bien. Je vous remercie. Éventuellement, une dernière chose à dire aux auditeurs pour qu'ils aillent voir un petit peu ce que vous faites ou même un dernier message à faire passer.
Oui, moi j'en avais un, mais c'est parce que le débat, on aurait pu, enfin la discussion, on aurait pu la continuer longtemps. C'est que nous, on travaille actuellement à la plantation des haies, mais il y a un sujet sur lequel on va se mettre à travailler très prochainement et qui va pas mal nous occuper, c'est sur la gestion des haies existantes, parce qu'on a un patrimoine de haies présent sur le territoire qui semble comme ça beau et qui est attractif pour pas mal de gens, mais il faut savoir que c'est des haies qui sont très vieillissantes, qui sont voire en fin de vie, et que si elles sont pas gérées correctement, elles finiront par disparaître aussi. Parce que la haie étant un élément artificiel et géré par l'homme, il y a une gestion derrière à mettre en place, et ça c'est quelque chose qui se perd, voire qui est mal fait et qui abîme les haies au fur et à mesure. Donc on voudrait aussi travailler sur la gestion de l'existant pour garder ce patrimoine qui est quand même assez riche et qui a un potentiel de régénération très élevé et qui pourrait du coup produire beaucoup de services pour le territoire, mais qui demande à travailler sur de la pédagogie auprès des collectivités, des agriculteurs, pour relancer une gestion qui soit plus juste, et plus juste d'un point de vue économique, pour le territoire, pour ceux à qui appartiennent. Voilà, c'était sur ce point-là sur lequel il y a beaucoup à dire encore.
Eh bien, je vous lancerai une invitation pour qu'on reparle à nouveau des haies du Perche et d'ailleurs. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir invités.
Avec plaisir. Donc moi, je rappelle aux auditeurs que cette émission est disponible dès maintenant sur le site de la radio studiosf.fr dans un article de podcast où vous pourrez retrouver également toutes les informations si vous souhaitez en savoir plus sur le financement participatif lancé par la Maison Botanique et le collectif des planteuses et planteurs de haies bénévoles. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et d'ici là, on continue d'agir pour la chose commune.